Isabelle Fontaine, bon matin.
Bon matin, Steve.
On a un petit peu moins aimé. Disons que la réaction populaire, il fallait s'y attendre, n'a pas été très, très favorable à cette hausse salariale des élus et peut-être plus particulièrement celle du maire qui passera vraisemblablement de 144 000 à 160 000 $.
Écoute, il y a eu beaucoup de réactions effectivement à cette décision-là de lundi. Il y a plusieurs personnes qui ont été surprises hein, que ça se retrouve dans l'ordre du jour et en discussion au conseil municipal. En même temps, à la décharge des élus, tu sais, il faut juste comprendre d'où vient cette augmentation-là, puis pourquoi est-ce que les élus arrivent aujourd'hui à prendre une telle décision. Il y a deux affaires là-dedans que je veux redire parce que c'est important, puis je pense que les élus eux-mêmes l'ont peut-être mal expliqué ou pas suffisamment dit. Je veux me faire leur porte-voix. D'abord, rappelons-nous qu'en juin 2017, le gouvernement du Québec a adopté la loi 121, qui était une loi de réforme des pouvoirs municipaux puis de décentralisation. Puis parmi tous les nouveaux pouvoirs qu'ils ont donnés aux municipalités, ils leur ont donné le pouvoir d'indexer leur propre salaire. C'est-à-dire que jusqu'à l'adoption de cette loi-là, là, les salaires des conseillers municipaux puis des maires étaient indexés par Québec année après année, sans qu'on en entende vraiment parler de façon naturelle. Comme dans les entreprises, souvent, les échelles salariales sont indexées, tout ça, donc ça se faisait normalement. On n'en entendait pas parler. Là, c'est un peu ingrat parce qu'on a pelleté ça dans leur propre cours, donc les élus sont maintenant responsables d'adopter leur propre indexation après année après année.
Mais Antoine et moi, juste ce point-là, c'est malsain. Tu es obligé ultimement de te voter ton augmentation, puis il faut qu'il y en ait à un moment donné des augmentations salariales.
Absolument, il faut que ça s'ajuste au coût de la vie, puis ces gens-là ont besoin de vivre aussi, déjà que nos conseillers sont en principe travaillent à temps partiel. On sait qu'il y en a beaucoup qui travaillent à temps plus que plein quand même. Puis c'est un engagement important. La deuxième chose qui explique cette augmentation-là qui se sont votées lundi ou qui ont proposé lundi, qui vont adopter probablement dans deux séances, c'est que le fédéral a décidé qu'à compter de cette année, les allocations pour dépenses des élus municipaux allaient être imposables. Donc, dans le fond, ils paient une portion d'impôt sur ça et on va ajuster le salaire pour compenser cette perte de revenus net finalement.
Pour Sherbrooke, là, l'allocation qui est allouée est de 16 000 $. Donc, le 16 000 est imposable. Je mets juste ça en perspective pour vous dire, ça change la donne, mais ça change pas tout non plus. Là. C'est une imposition sur 16 000 $.
On s'entend, mais en même temps, c'est une augmentation de 7 000 $. Là,
bon,
pour
d'accord,
les conseillers
municipaux, mais quand même.
Puis, bon, tu parles du salaire du maire, ça c'est une chose, mais tu sais, mettons ça en perspective. Tu en as parlé avec Luc un peu ce matin, c'est vrai qu'il gagne 160 000 $, c'est un peu plus
ben,
que les...
il va le faire, c'est pas encore fait, là, mais c'est ce qu'on a proposé.
C'est ce qu'on propose. Le premier ministre en gagne 206 000. La mairesse de Longueuil, hein, ça a fait beaucoup l'actualité aussi, gagne 240. La mairesse de Montréal, 185. Celui de Trois-Rivières, 143. Gatineau, 140. Donc, on s'entend, on est à peu près dans les revenus normaux. Est-ce que c'est...
Dans les revenus normaux, mais tu compares ça à quoi? C'est ça la difficulté.
Tu compares ça aux autres maires,
bon,
c'est ça.
Mais 185 pour la ville de Montréal qui compte 1 million d'habitants, puis 160 000 pour le maire de Sherbrooke qui en compte à peu près le même nombre,
là,
c'est-à-dire 160 000 habitants.
Moi, j'ai posé une hypothèse, peut-être que 185 000 pour la mairesse de Montréal, c'est pas suffisant.
Pas assez, bon.
Moi, c'est... Rappelons-nous que ces gens-là, un, n'ont pas de sécurité d'emploi. Hein.
Mm-hmm.
Ils se sont engagés dans une campagne électorale. La mairesse de Montréal comme le maire de Sherbrooke sans penser qu'elle allait gagner. On s'entend,
oui, oui,
tout le monde disait qu'elle n'allait pas gagner. Ensuite de ça, ils peuvent perdre au bout de 4 ans.
Mm-hmm.
Donc, retourner dans leurs fonctions précédentes, qui sont peut-être pas des fonctions où ils gagnaient d'aussi
quand
bons salaires.
Quand c'est possible, soit dit en
quand
passant.
Quand c'est possible. Parfois, oui, ils ont une prime de départ ou en tout cas une espèce de compensation quand ils perdent leurs élections. Mais en même temps, souvent, c'est vraiment compliqué pour les politiciens de se replacer dans une vie après la politique. Là. On aurait pu, Luc, ça s'est bien passé, mais il y a eu de ses collègues où c'est très compliqué. Quand tu n'es pas avocat ou comptable, c'est pas simple.
Et ça s'est bien passé aussi parce qu'il était ministre. S'il avait été, par exemple, entre guillemets, parce que c'est déjà honorable, mais simple député et député d'arrière-ban, c'est pas mal moins en vue, puis on te désire pas mal moins une fois que ton passage est fini. Là.
Ah, puis tu sais, garde, je pense qu'il y a certains ministres de l'époque de Jean Charest, là, qui, quand ont quitté la politique en 2012, là, ça a dû être probable. Enfin, je sais pour certains que ça a été très difficile parce qu'il y a tout le passif de ce gouvernement-là qu'il devait porter, puis pour certains, ça a pris des années avant de se repositionner.
Et pour les libéraux, le passage Barrette?
Absolument.
Non, mais tu sais, je veux dire, il y a cette espèce de stigmatisation-là qui est restée. Là, la santé, Gaétan Barrette, vous êtes associé à ça, les anciens libéraux. C'est comme ça. Là.
Les anciens libéraux, puis associés au gouvernement Charest, aux allégations de corruption, tout ça, de collusion dans l'industrie de la construction. Donc, tu sais, l'après-politique peut être très compliqué. Fait que je pense que les salaires doivent un peu compenser ça. Ça reste un engagement, tu sais. Maintenant, à quelle autre profession on peut comparer ça, c'est difficile. Mais moi, je pense qu'effectivement, ce qui a été présenté lundi, ça a été présenté dans à peu près toutes les autres municipalités parce que toutes les municipalités maintenant font face à la même problématique. Sherbrooke est resté dans l'eau. Bon, c'est sûr que nous, on a le contexte qui cause un peu de confusion du fameux rapport de M. Tanguay, mais l'un n'exclut pas l'autre, puis on s'attend quand même à ce que le conseil municipal pose des gestes par rapport au rapport Tanguay, puis réajuste à la fois la rémunération sur le nombre, sur les conseils, les comités et les rémunérations en fonction des recommandations.
Mais sur rapport. Le fond, là, c'est
deux choses différentes.
Tout à fait. Mais moi, je suis tout à fait en faveur que tu paies correctement ton monde. Écoute, comme tu le dis, c'est un emploi, les gens sous-estiment ce que c'est. Là. Ah, c'est 25 heures par semaine. C'est pas 25 heures.
Tes conseillers municipaux, là, tu l'es 24 heures sur exact. 24, 7 jours sur 7. Tu vas faire ton épicerie, tu vas chez le barbier ou chez la coiffeuse. Dès que tu es dans un endroit public, tu vas dans un festival avec tes enfants, tes conseillers municipaux tout le temps.
Et vous allez toujours m'entendre défendre votre rémunération juste. Mais tu peux pas faire ça tout croche. Et ça a été fait tout croche. Et un maire à 144 000 à Sherbrooke, c'était suffisant.
Cool.
Écoute, l'augmentation pour les conseillers à 41 000, voyons donc, c'est pas la mer à boire, là. C'est pas la mer à boire,
c'est,
mais...
C'est presque rien.
Est-ce qu'on n'aurait pas dû revoir les comités avant? Est-ce qu'on n'aurait pas dû enlever de l'argent des comités avant? Est-ce que tu peux pas juste dire, OK, on s'augmente puis on verra le reste plus tard?
C'est clair qu'il y a un enjeu de communication ici. Mais moi, je pense que ce qu'ils ont fait lundi, ça a été mal expliqué, mais que c'était juste... normal par rapport au contexte dans le reste du Québec.
Et on le dit comme ça, malheureusement, t'es pas là pour les conseiller. Elle est à nous! Elle est à nous! Le gars qui fait son possessif ce matin.
Je suis pas là pour les conseiller. J'aurais peut-être fait ça autrement. Je sais pas, retarder la publication du rapport ou au moment de publier le rapport, ils savaient que c'était dans l'air, cette augmentation-là. Ils ont dû en parler à huis clos. Hein?
Ouais.
Donc, peut-être que ça aurait dû être fait tout en même temps pour qu'on comprenne bien que les deux choses n'étaient pas nécessairement liées et que ça ne soit plus clairement expliqué.
Et autre erreur, tu dois le suivre, le rapport, non? Si tu l'as commandé, tu n'as pas trop le choix.
Bien, il faut que tu le suis ou tu le tablettes. C'est où on le met sa tablette ou on le met en œuvre, mais on ne peut pas faire la moitié. Là.
Isabelle Fontaine, merci. C'est toujours un plaisir.